12h-13h, France Bleu Lorraine Midi.
On parle de Stanislas, alors oui. Depuis un petit moment, parce qu'il faut dire qu'il a eu 1000 vies, hein, Stanislas, oui. Avant d'arriver chez nous dernier duc de Lorraine, roi, parce qu'il a gardé ce titre. C'est un véritable mécène des Lumières, c'est l'image en tout cas qu'on a de lui, un philosophe, un roi philosophe.
Oui, on l'a surnommé comme ça, ce qui est assez juste, je dois dire. Alors il a infligé à l'humanité l'œuvre du philosophe bienfaisant. Ça dégouline un peu de
ah, c'est lui qui a écrit ça.
Oui, ouais, il a écrit lui-même. Alors il faisait corriger ses textes par un homme dont j'oubliais le nom, mais qui se surnommait lui-même le blanchisseur du roi, parce que il faut reconnaître que bon, il était polonais, Stanislas, il parlait très bien le français, on va dire d'un point de vue, aristocratique, un peu comme certains de nos jours parlent anglais. C'est-à-dire que le français à l'époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, d'ailleurs, c'est la langue internationale. Vous savez qu'on est obligé de parler le français. Par exemple, en Angleterre, on a cessé de parler le français dans les classes les plus aisées de la société au moment de la Révolution française et de Napoléon, parce que c'était pas très patriote de parler le français alors qu'on était en guerre contre la France. Mais sinon, c'était vraiment la langue universelle. Donc Stanislas la parle, mais il la parle comme certains que je connais, c'est-à-dire moi, par exemple, parle anglais, vous voyez. Donc, de temps en temps, on comprend pas exactement la tournure des phrases. Donc, il fait vérifier tout ça par un gars. Il a sorti son œuvre du philosophe bienfaisant, dont la mairie de Nancy a sorti une phrase intéressante qui est « Le vrai bonheur consiste à faire des heureux ». Bon, bah, tout est à l'encan et ça dure des kilomètres. C'est pas forcément son meilleur boulot. Ceci dit, ça se lit quand même relativement bien. Alors, en revanche, il héberge beaucoup de philosophes. Quand on parle de Nancy, ville humaniste, il faut plutôt aller chercher d'ailleurs les racines de la Lorraine humaniste là précisément, plutôt à Lunéville qu'à Nancy. C'est-à-dire que Nancy, c'est un peu, moi je trouve, approprié, tant mieux d'ailleurs, d'une certaine manière, l'humanisme qui pas si vous voulez, tous ces gens-là qui allaient à Lunéville ne faisaient que passer à Nancy, hein, c'est-à-dire qu'ils traversaient la ville, ils regardaient sur la fin la place Stanislas qui venait d'être finie, mais sinon, en général, ils traversaient vite fait puis ils allaient se poser à Lunéville. Et alors tous ces gens, c'est qui? Bah, c'est notamment Voltaire. Voltaire qui va séjourner si longtemps à Lunéville qu'il a à un moment pensé s'installer. On aurait pu avoir l'équivalent de Ferney-Voltaire. Ça se trouve en Savoie, si je me souviens bien, tout près de la Suisse. Pourquoi? Parce que c'était facile de s'échapper si jamais un de ses textes déplaisait au roi de France.
Ah oui, c'est qu'il avait des soucis, c'est pour ça.
Il avait régulièrement des soucis. Quand il est venu chez Stanislas, il avait déjà fait un petit séjour à la Bastille pour piquer des hannetons. Et donc, il s'était intéressé, Voltaire, à un moment au château de Champignol, qui existe toujours d'ailleurs, en se disant, tiens, je me poserais bien là, après tout, la Lorraine, tant que Stanislas est là, ça reste une terre indépendante, je serai protégé par le roi. Et c'est Louis XV, perso, qui a dit pop, 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 je ne veux pas de ce garçon à Champignol ou en Lorraine ou dans une terre de France. Donc il s'est mis à Ferney, qui est vraiment l'extrémité du royaume de France à l'époque. Mais sinon, il aurait installé alors son bureau, son théâtre et la fameuse fabrique de montres. Hein. Vous savez que Voltaire, c'est peut-être un philosophe, mais il est loin d'être désintéressé. Il est même plutôt assez radasse, hein, je dois dire. Il a eu beaucoup de soucis avec son meilleur ami Frédéric de Prusse, en lui piaillant des sous. Le roi, mais pas trop. Bon, faut dire qu'il est un peu comme tous les puissants, il a jamais assez d'argent, hein, le roi de Prusse à l'époque. Enfin, il s'est lancé, il avait le sens des affaires, il s'est lancé dans une fabrique de montres qui a drôlement bien marché. Il a lancé un peu le marketing, Voltaire, à ce niveau-là. Vous voyez, il en offrait 2-3 à des personnes bien placées, puis après tout le monde voulait en
avoir. Bah, oui.
Donc, il y a Voltaire, il y a Maupertuis, qui le célèbre mathématicien. D'ailleurs, Émilie Duchâtelet n'y est pas pour rien, puisqu'il fricote un peu tous les deux. Il y a qui encore? Il y a Helvétius. Alors Helvétius, Claude Adrien Helvétius de son vrai nom, il n'est pas du tout lorrain d'ailleurs au départ, il est né à Paris. Mais alors, il a épousé, si je me souviens bien, une Lorraine qui doit être apparentée au Beauvau, au Lignéville. Et alors, il va sortir un bouquin extraordinaire. Dans son livre, il affirme qu'en gros, l'âme n'existe pas. Ou en tout cas, qu'on n'est pas sûr d'avoir une âme. Dans une époque,
le
18e, ouais, ça reste... On a une image, nous, un peu déformée aujourd'hui. On a l'impression qu'au 18e, tout le monde est philosophe. Faut savoir qu'on n'a jamais, rarement été aussi religieux qu'à cette époque. On imprime, par exemple, Nancy, c'est une ville très importante pour l'imprimerie au 18e. On imprime 90% des livres qu'on imprime sont des méthodes religieuses, des discours un peu rigoristes. Faut pas oublier que c'est l'époque qui va voir le supplice du fameux chevalier de la Barre. Vous savez, ce garçon de 20 ans dont on a... on l'accuse, on n'en est même pas sûr d'ailleurs, on l'accuse de ne pas s'être découvert au moment du passage d'une procession. Ça se passe dans le nord de la France. Il est plus ou moins dénoncé. On va fouiller ses affaires. On découvre notamment le livre d'Helvétius et surtout des livres de Voltaire. Quelques livres un peu olé-olé qu'on ne lit que d'une main, comme on dit à l'époque. Et du coup, ça va complètement s'emballer et on va le condamner, ce pauvre garçon, à avoir la langue coupée et à être brûlé vif à Arras. Ça va bouleverser littéralement les philosophes et ça explique d'ailleurs que Voltaire soit aussi allé en Savoie. Et tout ça donc à cause de ce fameux Helvétius qui dit qu'en gros, l'âme, c'est une plume, de la plume ou du plomb, si je me souviens bien. Donc il y a tout ce monde-là qui se croise à Lunéville et c'est vrai que Stanislas, comme vous le dites, on peut le surnommer le roi philosophe parce que même quand il n'est pas d'accord, c'est ça sa grande qualité, il accepte la contradiction, il essaie de faire un lien, lui, il est très catholique, il ne faut jamais l'oublier. C'est un homme très pratiquant, il n'est pas polonais pour rien et donc du coup, il essaie de faire le lien entre l'Église et les philosophes. Et d'ailleurs, quand on regarde, il était avant-gardiste, puisque tout le XXe siècle, c'est notamment le combat ou le fait de trouver un point de retrouvailles entre la raison et la foi. C'est le grand combat de Benoît XVI, l'avant-dernier pape. Donc Stanislas, il est un peu en avant sur son temps. On verra demain que on va aller se balader un peu dans le monde des lumières, c'est-à-dire comment on s'habille, pourquoi on se met de la poudre de riz sur le nez, des choses comme ça, on aime bien aussi. On aime bien. On fait ça demain.
Oui, mais vous le faites. Vous venez avec votre poudre de riz.
On fait comme ça, avec ma perruque poudrée, voilà.